si vous avez des questions ou même des réactions ou des choses à...
Si vous avez des éléments aussi, vous, à apporter dans vos activités militantes, associatives, quotidiennes, enfin voilà, n'hésitez pas, c'est...
Oui, c'est sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la frontière française, italienne. Est-ce que cette répression des flics français est rentable? Et est-ce que celle, les migrants, c'est rentable pour eux? C'est-à-dire, par là, on se doute bien que les gens qui ont été repoussés une première fois vont revenir. Et est-ce qu'on sait au bout de combien de temps ils arrivent à passer? C'est-à-dire combien il y a de tentatives? Parce que j'imagine s'il y a 150 personnes à un moment dans la journée qui sont refoulées, il y en a qui vont l'être 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Donc est-ce qu'à la finale, ces tentatives finissent par permettre aux migrants de passer ou au moins une partie d'entre eux? Et puis les autres questions, en fait, c'est des remarques, c'est que il y a énormément de migrants qui arrivent directement en Italie ou en Grèce. Comme dans la procédure Schengen, il est précisé que c'est dans le pays d'accueil qu'il faut faire sa demande. La Grèce et l'Italie ne sont pas forcément les destinations finales de ces migrants, sont dans une contradiction énorme. A priori, elles ont plutôt intérêt à ce que les migrants puissent passer ailleurs, est passé par la France, puisqu'on sait, et ça en dit quand même pas mal sur la popularité de la France, que finalement assez peu de migrants veulent rester en France. Il y en a beaucoup qui veulent aller plutôt en Angleterre, plutôt en Allemagne, et ils traversent la France. Enfin, c'est ce que je pense, je crois savoir.
Peut-être sur la question du coût, parce que je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais rentabilité. Comment dire ? C'est-à-dire que même dans des situations où on met des murs, et ce n'est pas encore le cas, mais bon, touchons du bois, à la frontière franco-italienne, y a toujours des personnes qui passent. Soit parce qu'elles trouvent des passeurs, des stratagèmes, etc. Soit parce qu'elles prennent d'autres routes plus dangereuses, plus longues. Ça, c'est vraiment le schéma classique de plus tu fermes une frontière, plus les dangers vont être gros pour passer cette frontière, mais il y aura encore du passage, parce que quand une personne est prête à prendre un bateau en pneumatique pour traverser la Méditerranée, elle continuera son chemin jusqu'au bout, si elle le peut. Et il y a des personnes qui perdent la vie régulièrement à cette frontière, qui ont perdu la vie en sautant de pont, en se faisant écraser dans des tunnels, comme à Calais, comme en Méditerranée, comme dans les Balkans... Ça, c'est vraiment une conséquence directe de la fermeture des frontières. Après, sur le nombre de tentatives, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça crée une espèce de situation où si vous êtes, avec des guillemets, vulnérable, c'est-à-dire que vous êtes plus faible physiquement, vous êtes une femme enceinte, vous n'êtes pas équipée, vous allez mettre beaucoup plus de temps à passer que si vous êtes en forme et que vous pouvez prendre la route et que vous pouvez vous payer un passeur qui va vous indiquer l'endroit où la PAF sera pas présente, j'en sais rien, mais vous voyez la logique, quoi. Donc on se retrouve vraiment avec une situation où il y a énormément de jeunes, surtout de jeunes hommes, mais aussi des mineurs, des jeunes filles, des jeunes femmes, qui arrivent par la vallée de la Roya, même s'il y a énormément de contrôles, et avec des familles, des femmes avec des enfants en bas âge, des femmes enceintes qui sont bloquées à Vintimille et donc qui essayent de passer par le train, comme le jeune qu'on a vu dans la vidéo qui avait une béquille. Sur la deuxième question, c'est une bonne question parce que c'est exactement lié à ce que j'évoquais au règlement Dublin, qui définit en fait quel État membre est responsable du traitement de la demande d'asile d'une personne. Donc il y a un certain nombre de critères, et un des critères qui est le plus utilisé, c'est l'entrée, le franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. Mais il y a d'autres critères aussi, par exemple qu'un État vous ait délivré un visa, ou que votre père ou votre mère, si vous êtes un mineur, a déjà un titre de séjour ou est déjà demandeur d'asile dans un autre État membre. Mais on se retrouve dans une situation, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, où en fait les principaux pays d'entrée irrégulière, ça va être l'Italie, la Grèce, la Hongrie. L'Espagne, ça a déjà été fermé depuis bien longtemps avec une coopération fructueuse avec le Maroc et Frontex. Mais vous avez une majorité de personnes qui arrivaient à l'époque par la Grèce et l'Italie. Maintenant, c'est surtout sur l'Italie. Et donc, je pense que l'Italie, je parle de l'Italie, mais la Grèce, à mon avis, c'est aussi un peu pareil. C'est qu'elle est dans une situation où elle a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elle, à la fois, elle doit un peu tenir la tête haute face à ses partenaires européens qui lui mettent quand même vraiment la pression. En termes, pas que sur la question des migrants, puisque ça, c'est lié à d'autres questions. Sur la Grèce, ça a été très lié aussi à la question économique. Il y a des gros financements qui sont attribués à la Grèce et à l'Italie pour, avec des guillemets, gérer les migrants. Donc, pour rénover les centres d'accueil, pour réformer le système d'asile, etc., etc. Donc, il y a vraiment quand même des sous à la clé. Et puis cette injonction de respecter les textes européens, donc de prendre les empreintes des personnes à leur arrivée. Donc c'est aussi une lutte de pouvoir au niveau politique et dans l'état des choses, des pays comme même comme l'Italie. Enfin, on l'a vu, l'Italie, elle fait un appel au secours. Et elle essaye de faire monter ça avant le Conseil des ministres. Et la seule réponse qui ressort d'une réunion où le ministre de l'Intérieur italien était présent, c'est de coopérer avec la Libye. Rien sur... et de donner plus d'argent à l'Italie. C'est tout. Aucun truc sur Dublin, rien sur l'ouverture de ports dans d'autres pays européens. Donc voilà.
Moi, je voulais un petit peu compléter par rapport à la rentabilité ou plutôt la... sur ce que disait Marine, sur les personnes qui... Enfin, l'augmentation, en fait, des dangers. Elle parlait des personnes qui sont décédées, mais ce qu'on constate aussi, et notamment à Vintimille, c'est l'augmentation, donc la création de réseaux de passeurs clairement définis et où il y a un bien établi et où ils sont de plus en plus nombreux. Et au-delà de ça, et surtout, c'est le développement de réseaux de traite qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas développés jusqu'à il y a quelques mois et qui, là, à l'heure actuelle, prolifère à Vintimille, au vieux aussi de tous, et qui met en danger principalement les femmes et les mineurs des deux sexes. Et là, et c'est vraiment quelque chose qui se développe de manière exponentielle ces derniers mois.
Oui, pour cette question de rentabilité, je ne poserai pas la question à savoir si c'est rentable, mais où est-ce que c'est rentable ? Parce que depuis 50 ans ou presque qu'on a cette politique de contrôle, c'est-à-dire quand on a instauré en 1974 la carte de séjour, etc., qu'on a à peu près la même politique qui continue, qui se maintient avec des choses qui sont sensiblement différentes, si ce n'était pas rentable, quelque part... ça aurait fini par se savoir. Donc il y a un endroit ou des endroits où c'est rentable et c'est là où je pose la question. Enfin, c'est comme ça que je la repose. Je ne sais pas si c'est clair ma façon de poser la question, de reposer la question. C'est-à-dire qu'on crée des réseaux de traite, on va vendre à la Libye tout un matériel de surveillance des frontières, etc. Il y a des endroits où c'est rentable. Il y a aussi une très grosse rentabilité politique.
Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode. C'était, je crois, il y a un an et demi. En fait, c'était en Espagne et il y a deux ans peut-être. Et le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, s'était vanté de la politique très ferme et très efficace de la politique espagnole, justement de contrôle des frontières. Et puis parallèlement, il y avait eu un jugement en Espagne. Condamnant des flics marocains particulièrement violents contre les migrants et même avec une commission rogatoire internationale. Ça a échauffé les esprits des flics marocains et ces deux informations. Et comme par hasard, deux jours après, les Espagnols ont vu arriver 2500 réfugiés qui ont traversé le détroit de Gibraltar, qui est pourtant extrêmement dangereux, et pouf ! Et puis le lendemain, ça s'est arrêté. Et en fait, c'était un petit salut des flics marocains qui sont assez facilement tortionnaires, puisque c'est des traditions locales. Si on dit « Coucou, faut pas nous faire chier quand même, parce que si l'Espagne n'est pas dans la société, dans le cas de l'Italie ou de la Grèce, c'est grâce aux flics marocains. » Et le message apparemment a été entendu. C'est-à-dire que actuellement, c'est en Libye, c'est parce que la Libye n'existe pas. Donc c'est une guerre civile, comme chacun sait, et la Libye ne contrôle rien, ni son propre territoire, ni ses côtes. Donc évidemment, c'est une possibilité pour les migrants de passer. Je rappelle qu'à l'époque où il y avait Kadhafi, l'Europe avait sous-traité une politique de rétention et où l'armée libyenne avait, par exemple, relâché des mecs en plein désert où il y avait eu des centaines de morts. Voilà. Sur les questions de la rentabilité.
Oui, mais je crois aussi qu'il y a une rentabilité politique.
Oui, en fait, moi, je voulais juste savoir si, du coup, vous saviez ce qui se passait lorsque les personnes refusent, en fait, de remonter dans le train. Est-ce que, du coup, ça n'arrive jamais ? Du coup, les gens, systématiquement, Parce qu'on imagine, enfin, avec des jeunes qui du coup, on ne pourrait pas, du coup, en faire une infraction et que ce soit... Enfin, qu'ils soient placés en garde à vue pour refus de réadmission. Réadmission, alors même qu'ils sont mineurs et qu'ils ne peuvent pas être renvoyés, normalement.
Bah, nous on n'a pas observé de situation où les gens refusaient. Après, quelques jours après être rentrée à Paris, j'avais un mail d'une collègue italienne qui nous disait qu'il y avait un jeune qui s'était enfui du train et qui avait été rattrapé par les CRS, qui avait été tabassé, qui avait été emmené à Menton et renvoyé en Italie. Et là, elle l'emmenait chez le médecin. Donc voilà, si c'est quand même des sacrés les CRS. Et voilà, après, sur la... une autre chose qu'on a vue, mais bon, ça c'est, on l'a vue en passant, c'était en redescendant de la vallée de la Roya, on était en voiture et on passe au point de passage et il y avait vraiment deux fourgonnettes de je sais plus ce que c'était, les gendarmes cette fois, je crois, ou ces gendarmes. Bon, et du coup, il y avait au milieu des deux camionnettes quatre jeunes gars qui étaient là et qui étaient. C'était limite des jeunes qu'on avait vus la veille à la Maraude avec qui tu discutais, c'est des Soudanais. Il y en a qui sont restés 6 ou 8 mois en France pour faire leur demande d'asile, qui ont été renvoyés en Italie, qui viennent te parler en français en te montrant leur attestation de France Terre d'asile. Enfin bon, t'es là, c'est complètement lunaire. Et donc là, entre les deux camionnettes, accroupis par terre avec les mains sur la nuque et entouré de flics, quoi. Donc vraiment en mode voilà. Après, nous, on n'a pas été témoins de violence directement.
Je réagis juste à ce que tu dis juste là, mais si c'était des jeunes qui étaient en procédure d'asile en France, ils se sont fait arrêter en centre-ville, en fait, pour être renvoyés en Italie. Ou j'ai pas suivi le début.
En tout cas, ceux qu'on avait rencontrés à Vintimille, notamment un, il avait été en procédure d'asile, il avait été dubliné en Italie et l'Italie lui avait notifié une obligation de quitter le territoire italien.
Moi, j'ai juste une petite question assez simple. En fait, je rentre de la vallée de Roya, là où j'étais pour travailler pendant quelques semaines, donc dans les hauteurs de Bray. Donc, j'ai un peu vu tout ce que vous racontiez là. Les rafles, les migrants qui prennent des chemins de plus en plus dangereux pour passer. Et en fait, nous, on les accueillait, on leur demandait leur âge et tout ça. Ils nous disaient tous qu'ils étaient mineurs. Et je me demandais si la police était en mesure de contredire la minorité des gens et comment ça se passait.
Non, ils ne contredisent rien de toute manière. Enfin, dans ce que nous, on a pu observer, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'on voit aussi dans la vidéo, c'est qu'en fait, peu importe que la personne dise « je demande l'asile » ou « je suis mineur », en fait, ils s'en foutent, ils les remettent directement soit dans le train, soit ils passent par Menton, Pont-Saint-Louis, ils les remettent à la police italienne. Un exemple sur les demandeurs d'asile, il y a quelques mois, les militants locaux avaient distribués à Vintimille des papiers pour les personnes qui disaient vouloir demander l'asile en France. Et du coup, quand ils arrivaient, donc ils se faisaient contrôler soit par voie terrestre, soit par le train, ils présentaient ce papier, donc écrit en français, parce que bon, faut pas oublier que si... Enfin, normalement, peu importe la manière dont on demande l'asile, hein, mais souvent pour la police et notamment la police aux frontières, s'ils disent pas je demande l'asile, ça marche pas. Et du coup, ils arrivaient avec ce papier-là et les policiers prenaient les papiers, les déchiraient, les remettaient dans soit dans le train. Enfin, après, même processus que ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, en fait, peu importe, si tu es mineur, même t'aurais la preuve de ta minorité, ce qui est souvent pas le cas, mais ils s'en foutent.
Mais en plus, c'est pas à la police de définir s'ils sont mineurs. Si une personne dit qu'elle est mineure, qu'elle ait des papiers ou pas, après c'est le parquet qui doit définir un ennemi. Enfin, il y a toute une procédure en fait où sa minorité doit être évaluée. Ça, c'est un autre sujet. Hein, on peut en parler. Pourquoi aussi il y a des personnes qui vont dire qu'elles sont mineures parce que tout est fermé si elles disent qu'elles sont majeures. Il y a des personnes qui ont des documents, mais ils vont pas être reconnus, ils vont être estimés comme faux documents sur la minorité. Enfin, voilà, il y a tout un parcours du combattant aussi pour les mineurs, mais en tout cas, ce n'est pas à la police aux frontières à déterminer si oui ou non tu es un demandeur d'asile, oui ou non tu es un mineur. Eux, leur boulot, c'est de faire respecter la loi à la frontière. Enfin, voilà.
Dans tous les cas, dans les rafles, ils faisaient pas de quartier, quoi. Ils arrêtaient tout le monde.
Et... Ouais. Ouais.
Oui, pour les questions de minorité, de majorité, en fait, un gamin qui est en Italie, qui veut passer en France pour ensuite continuer ou s'arrêter en France, va dire qu'il est majeur. Va dire qu'il est majeur parce que sinon, il risque de rester en Italie dans un centre pour mineurs. Mais ça, le fait qu'il va être à ce moment-là enregistré comme majeur et pas forcément avec les papiers d'identité, pas forcément sous sa vraie identité. Il peut tout à fait donner une autre identité qui peut être l'identité qu'un passeur qui fait partie du paquet que le passeur lui a vendu ou en tout cas, il va dire qu'il est majeur, il est enregistré, ses empreintes sont prises. Une fois qu'il va demander à être reconnu comme mineur, dans un autre État européen, en l'occurrence en France, la France va regarder le fichier, va dire « Ah non, tu as 25 ans, tu n'as pas 15 ans ». Et on a plein de gamins comme ça qui se retrouvent en rétention, qui n'ont rien à faire en rétention, qui sont mineurs. Il y a même un môme qui s'est fait expulser la semaine dernière, qui avait 15 ans et 8 mois, qui était passé par l'Italie. Et là, on vient de le renvoyer à Lyon la semaine dernière, parce qu'en Italie, il a dit qu'il avait 25 ans, il n'a pas dit qu'il avait 15 ans.
Je me pose une question par rapport à la vidéo du collectif Solidarité Roya. Au début de la vidéo, je crois qu'on entend le militant Cédric Héroux qui parle à un jeune dans le train et qui essaye de comprendre si la police a payé son billet ou pas, et elle n'en a pas payé. Et il dit que la police leur demande à eux, collectif de Breil-sur-Roya, je pense, enfin de là où il habite et il accueille des personnes exilées, de payer des billets pour les amener à Nice. J'imagine dans le but qu'ils puissent normalement faire leur demande d'asile. Et du coup, ça pose vraiment la question j'imagine que vous les avez rencontrés, etc., mais de l'instrumentalisation de ces collectifs qui se battent et qui, du coup, ont mis en avant où étaient les failles. Et finalement, du coup, on vous dit de faire ça. Et à Nice, finalement, ils sont refoulés. Et finalement, du coup, le collectif se retrouve presque à jouer l'une des pièces de la machine à expulser.
Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Oui, effectivement, il parle du paiement du prix du billet. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en voyant la vidéo, c'est qu'en fait, c'est nous, l'accent pour nous, il est plus, tu vois, sur le refus d'entrée, les procédures, le refoulement des mineurs ou des demandeurs d'asile. Là où, effectivement, c'est un peu questionnant, cette pratique, en fait, c'est qui a été mis en place avec le collectif Roya Citoyenne et la préfecture, le PADA, donc la plateforme asile de Nice, et en lien avec la gendarmerie de Breil, la possibilité de faire descendre les personnes qui seraient donc arrivées à Breil pour qu'elles puissent faire enregistrer leur demande d'asile dans le PADA. Le problème, c'est parce que du coup, pour pouvoir descendre, il faut passer par des PPA, et du coup, ils se font arrêter, et du coup, les personnes se faisaient ramener après en Italie. Et du coup, là où c'est pervers, au-delà d'être une machine, enfin d'être un rouage, là où c'est pervers, c'est qu'en fait, les personnes, pour pouvoir passer, le collectif est obligé de donner l'identité de toutes les personnes qui vont passer. Et du coup, ça fait le risque, c'est que ça fasse un. une sorte de fichage ou un listing en fait des personnes, et chaque semaine il y a un listing, et en fait le risque à terme c'est que du coup les personnes sont descendues à la PADA, elles sont enregistrées, le risque, la préfecture a ouvert des créneaux horaires spécifiques pour ces personnes, et la question c'est s'ils ne se présentent pas, et c'est d'ailleurs un des arguments qui nous a été opposé nous dans le cadre de notre contentieux où le ministère faisait état de toutes les personnes qui s'étaient présentées à la PADA, tous les entretiens auxquels personne n'était allé, et du coup, conséquence, les personnes ne veulent pas rester, ne veulent pas déposer leur demande d'asile en France, les personnes ne veulent pas rester en France, du coup, et elles veulent partir, ce qui n'est pas nécessairement le cas, ce qui veut simplement dire que les personnes ne veulent pas demander l'asile à Nice, parce que dans tous les cas, si elles se font arrêter dans la rue, elles vont être renvoyées. On l'a vu, des mineurs qui étaient sous protection de l'ASE, qui ont été renvoyés en Italie, toujours par le même système de la PAF et tout ça. Et donc, du coup, ce système peut être perverti et va être utilisé sans doute, enfin, est utilisé déjà dans le cadre de contentieux par le ministère et potentiellement peut être dangereux aussi pour les aidants.
Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, et monsieur doit le savoir, sur la vallée de la Roya, on se retrouve quand même, c'est une vallée, donc c'est vraiment, vous montez direct dans la montagne et vous vous retrouvez donc à Breil-sur-Roya, qui est un petit village, mais il y a plein d'autres petits villages, et avec cet endroit qui est chez Cédric Héroux, dont on a tant entendu parler, mais qui est vraiment un truc perché sur un rocher, et vous arrivez là et vous avez 50 Soudanais érythréens qui sont là. Et il y a vraiment eu, en tout cas le moment où, juste avant qu'on arrive, il y a vraiment eu de plus en plus de gens qui sont arrivés chez lui, parce que ça se passe, hein, de bouche à oreille, les gens ils savent très bien où aller. Et en fait, c'était pas tenable pour les militants locaux d'avoir autant de personnes. Il s'est monté à 100 personnes chez lui, donc c'était juste pas tenable. Et du coup, il y a eu cette réflexion de dire « personne nous aide, il se passe rien ». Allez, on met en place une stratégie pour que les gens puissent passer à Nice. Après, qu'ils demandent l'asile à Nice ou pas, on s'en fout. En plus, parce que les militants locaux, ce n'est pas du tout des gens qui travaillent sur les questions de migration et d'asile. Donc, ils ne connaissent pas le système du droit d'asile en France. Et du coup, en se disant, ils ont leur rendez-vous. Puis après, c'est plus notre responsabilité. Je caricature, mais c'était un peu ça. En gros, ils continuent leur chemin parce qu'ils veulent aller à Paris. Ils veulent aller dans d'autres villes en France, etc. Depuis, ils font de l'information auprès des personnes, notamment chez Cédric, sur comment ça fonctionne le droit d'asile, où est-ce que vous pouvez demander l'asile en France, etc. Donc voilà, donc il y a ce côté, il y a une urgence, vraiment, enfin, on s'en sort pas. Et du coup, on essaye de mettre en place une stratégie en discutant avec la préfecture et la gendarmerie pour que les gens descendent. Mais de l'autre côté, ça crée aussi des choses qui sont hyper, pour moi, hyper questionnables. Mais ce n'est pas moi qui jetterai la pierre à personne, puisque je ne suis pas chez Cédric Héroux tous les jours, la main dans la boue. Mais c'est vraiment de se dire... Ça veut dire qu'à un moment, la préfecture, elle reconnaît que les gens qui arrivent chez Cédric Héroux ou à Breil-sur-Roya, ce sont de potentiels demandeurs d'asile. Mais c'est les mêmes qui sont à Ventimille, c'est les mêmes qui essayent de passer tous les jours par le train. Où vous dites, mais non, pas du tout, refus d'entrée, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Donc on se retrouve avec un truc insidieux où en fait, il faut forcément passer par la vallée de la Roya, passer chez Cédric Héroux, être mis sur une liste pour pouvoir descendre à Nice et éventuellement avoir un rendez-vous à la PADA, ce qui est hallucinant en fait. C'est complètement hallucinant. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc là, il y a vraiment un enjeu aussi de coordination entre les acteurs dans la Roya et les acteurs à Nice. Donc on essaye de travailler là-dessus. Mais ce n'est pas évident parce que vous avez aussi des... on le voit dans cette vidéo. Enfin, des acteurs qui sont clairement à bout, qui ont envie que ça s'arrête. Et des pratiques administratives hyper violentes qui... on va au Conseil d'État. On fait le buzz sur Internet avec des vidéos comme ça. On rencontre, nous, on s'en est farci des défenseurs des droits, des CNCDH, des OFPRA, des trucs, des bidules. Et ils sont là, oui, c'est compliqué. Et il n'y a rien qui se passe, en fait. Parce que même au plus haut niveau de l'État, on ment et on n'hésite plus à mentir devant des juges, devant le Conseil d'État pour dire non, c'est comme ça, il y a un respect de la loi. Et puis, en fait, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, je ne vois pas où est le problème. Donc, voilà, il y a un peu des acteurs locaux qui sont aussi vraiment à cran depuis des mois, quoi.
Et puis juste pour ajouter, c'est que les acteurs locaux, en plus d'être à Caen, en fait, on parlait tout à l'heure de violence à l'égard des aidants. Enfin, il y a beaucoup de délation, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui était très prenant dans nos discussions avec eux. C'est en fait la délation, c'est... Enfin, est quasi quotidienne. Ils se planquent, ils planquent les gens, ils se planquent, ils va attendre la nuit pour les faire partir. Enfin, nous, on allait visiter un petit village, ils nous montraient les chemins pour éviter telle maison, telle personne. Enfin, c'est surréaliste, en fait, en termes de... Enfin, de quotidien pour eux, c'est... Et en même temps, face à, cette, à ces gens qui arrivent et qui sont... Enfin... enfin qui ont traversé la Méditerranée, enfin tout ça quoi, et du coup qui sont enfin qui ont vécu une vie hyper dure, et eux les enfin ils sont sensibles et ils sont derrière dénoncer, enfin c'était assez incroyable à ce niveau-là.
En tout cas, les apéros politiques du CICP, c'est trop bien.